cœur. Quelle joie, Seigneur, d'être au bénéfice des membres de ton corps. Et quelle joie d'adorer ensemble un Dieu vivant qui nous parle d'une manière ou d'une autre. Et merci pour ta parole déposée sur le cœur de notre frère Étienne. De même, Seigneur, que ton esprit a commencé de l'inspirer, de même nous te prions que le même esprit inspire notre écoute et notre discernement et que ta parole, Seigneur, soit bénissante au nom de Jésus. Amen. Étienne, bienvenue et je vais te laisser la parole.
Merci. Merci Paul pour ce temps d'introduction. Merci à l'équipe de Louange. Wow, c'est haut ça, hein. Moi je suis petit. On m'appelle tout le temps le petit-déj. Je ne viens pas toujours avec les croissants, mais je suis petit. Heureusement Dieu est grand. Amen. On a commencé depuis hier à avoir ce temps pour lequel vous nous avez invités avec Peggy pour réfléchir. Ah, vous allez le baisser. Non, mais de toute façon, je vais bouger. C'est automatique. Ah, trop bien. Vous êtes des frères, mes frères. Bon, faudra le remonter tout à l'heure. Ouais, ça le fait, hein. C'est bien pensé. On a commencé depuis hier à réfléchir. Vous voyez, je suis déjà plus en face. Il va falloir que je revienne pour être derrière l'écran. À réfléchir sur les questions de famille. On a abordé différentes questions. Hier soir, on a pu aussi, avec votre belle équipe responsable de l'enfance, de la jeunesse, élargir le champ et réfléchir à notre implication dans l'Église en mettant en perspective la famille. La famille au sens strict, mes frères, mes sœurs, mes beaux-frères, mes belles-sœurs, mes cousins, mes tantes peut-être et oncles, mes parents, mes enfants. Et j'ai invité l'Église hier après-midi à étendre un peu le champ parce que la famille, elle est là aussi. À voir celui qui est assis à côté de moi comme un membre de la famille. Et dans cette perspective-là, sur le thème de la famille, tout le monde n'étant pas là hier, j'ai prié le Seigneur en lui disant « Mais Seigneur, quel est ce texte biblique qui pourrait être bon de partager ensemble ?» Et le Seigneur a mis sur mon cœur un texte un peu compliqué. Il a mis sur mon texte des histoires de famille dans la Bible et particulièrement dans l'Ancien Testament, des histoires de famille qui sont peu reluisantes. Et c'est l'un de ces textes que je vous invite à partager ce matin. Nous allons le lire, la lecture est un peu longue et le temps de méditation sera un peu long aussi peut-être. Mais je crois qu'il est important parfois de pouvoir nous arrêter sur ces textes sur lesquels on pourrait facilement mettre le voile. Il était question tout à l'heure de poser des fardeaux, d'avoir le bénéfice d'une communauté qui soit à côté de nous pour porter ces choses-là, pour prier, pour accompagner, des fois pour être guéri. Et je remercie aussi Paul pour ce temps, ces mots qui ont été donnés là tout à l'heure, juste avant que nous ne lisions ce texte-là. Il s'agit d'une famille, la famille de David. Et je ferai donc ce matin, tu peux peut-être envoyer la première et puis après, j'essaierai de continuer avec la zapette. Je vais faire le portrait de ces quatre personnes qui jalonnent cette histoire. Je vais lire donc maintenant ce texte. Absalom, un fils de David, avait une sœur. Mes yeux ne me permettent pas de lire là-bas, donc je me retourne. J'arrive à l'âge où il faut... Je dois être équipé parce que je porte un petit handicap. Absalom avait un fils. Absalom, un fils de David, avait une sœur qui était très belle et qui se nommait Tamar. Amnon, un autre fils du roi David, en tomba passionnément amoureux. Il se rongeait à propos de sa demi-sœur et se rongeait tant qu'il s'en rendait malade car elle était vierge et lui semblait impossible de l'approcher. Amnon avait un ami nommé Yonadab, un fils de Shimea, le frère de David. En fait, c'est un cousin. Yonadab est un cousin d'Amnon. C'était un homme très astucieux. Il demanda à Amnon, « Fils du roi, pourquoi es-tu si déprimé? Chaque matin, tu parais l'être davantage. Ne veux-tu pas m'en dire la cause ?» Jonadab lui dit alors, « Mets-toi au lit et fais comme si tu étais malade. Quand ton père viendra te voir, dis-lui, « Permets à ma sœur Tamar de venir me faire à manger, qu'elle prépare le repas sous mes yeux, afin que je la voie faire, puis je mangerai de sa main. » Amnon se mit donc au lit et fit semblant d'être malade. Le roi vint le voir et Amnon lui dit, « Fais venir ma sœur Tamar pour qu'elle me prépare 2 galettes sous mes yeux et je les mangerai de sa main. » David envoya dire à Tamar dans son appartement, « Va chez ton frère Amnon et prépare-lui son repas. » Tamar se rendit donc chez son frère Amnon et le trouva couché. Elle prépara de la pâte et la pétrit, puis confectionna des galettes devant lui et les fit cuire. Ensuite, elle prit la poêle. On a toute la recette là quand même. Hein. Ensuite, elle prit la poêle et lui en fit servir le contenu devant le roi, mais il refusa d'en manger. Servit le contenu devant lui et il refusa d'en manger et dit « Faites sortir tout le monde d'ici. » Tous se retirèrent. Alors il demanda à Tamar « Apporte-moi ces galettes dans ma chambre pour que je les mange de ta main. » Tamar prit les galettes qu'elle avait faites et les apporta à son frère Amnon dans sa chambre. Au moment où elle les lui présentait, il l'empoigna et lui dit « Viens, couche avec moi, ma sœur. » Mais elle s'écria « Non, mon frère, ne me fais pas violence. Cela ne se fait pas en Israël. Ne commets pas une telle infamie. Après cela, où irais-je porter ma honte et toi, tu serais considéré comme un individu méprisable dans notre peuple? Pourquoi ne parles-tu pas au roi? Il ne refusera pas de me donner à toi. » Mais il ne voulut rien entendre et comme il était plus fort qu'elle, il lui fit violence et coucha avec elle. Après cela, il conçut pour elle une forte aversion, plus violente que la passion qu'il avait éprouvée pour elle. Tout à coup, il lui ordonna, « Lève-toi, va-t'en. » « Non, lui dit-elle, en me chassant, tu commettrais un crime encore pire que le mal que tu m'as déjà fait. » Mais il ne voulut pas l'écouter. Il appela le domestique qui était à son service et lui ordonna, « Débarrassez-moi de cette fille. Jetez-la dehors et verrouillez la porte derrière elle. » Elle portait jusque-là une longue robe multicolore, car c'était autrefois la tenue des princesses, aussi longtemps qu'elles étaient vierges. Le domestique la mit dehors et verrouilla la porte derrière elle. Alors Tamar répandit de la cendre sur sa tête. Elle déchira sa longue robe, se prit à 2 mains la tête, puis elle partit en poussant des cris. Son frère Absalom lui demanda, « Ton frère Amnon t'a-t-il fait violence ? Maintenant, ma sœur, n'en parle pas, c'est ton frère. Et ne prends pas la chose trop à cœur. » Ouais. J'entends déjà des gens réagir. Dès lors, Tamar alla demeurer dans la maison d'Absalom comme une femme abandonnée. Le roi David apprit tout ce qui s'était passé. Il en fut très irrité. Il ne fit cependant aucun reproche à Amnon, car c'était son fils aîné, et il l'aimait beaucoup. Quant à Absalom, il n'adressait plus la parole à Amnon, ni en bien ni en mal, car il l'avait pris en haine à cause du viol de sa sœur Tamar. 2 ans plus tard, Absalom était avec les tondeurs à Bat Hatsor, près d'Ephraïm. Il invita tous les frises du roi et je mis 3 petits points, simplement pour résumer l'histoire, vous dire que Absalom va faire tuer Amnon. Je vous invite à prier. Seigneur, nous voulons, comme nous le faisons souvent, te bénir pour ta parole. Tu dis la vérité, tu ne caches pas la vérité, tu nous préviens. Et tu nous invites à méditer cette parole. Seigneur, je te prie pour qu'elle soit présente toujours dans nos cœurs, qu'elle puisse produire du fruit, comme tu le dis toi-même, qu'elle nous encourage, nous exhorte, nous redresse parfois. Seigneur, je te prie de bénir cette assemblée comme nous l'avons chantée dans son témoignage, dans ce qu'elle veut répandre autour d'elle, dans la lumière qu'elle est dans cette ville où tu l'as placée. Seigneur, bénis ces temps de méditation que nous avons régulièrement en famille devant toi. Merci pour ta parole agissante. Amen. Quatre portraits que je vous invite à survoler maintenant. peut-être à certains endroits, l'un ou l'autre de ces commentaires que je vous proposerai feront écho avec ce que nous portons, ce que nous vivons, les combats que nous menons. Amnon, comme nous l'avons lu, c'est le fils aîné de David, celui qui est destiné à devenir le roi. Ça laisse présager à un avenir. En tant que premier-né, il avait évidemment une place particulière dans les yeux du roi et vis-à-vis de la grande fratrie qui était là. Des frères, des demi-frères, des demi-sœurs. Il avait cette place-là vis-à-vis des autres et il avait très certainement une attente. Et les autres le savaient. Et même au niveau de l'héritage, sa place était particulière. Il aurait certainement reçu une part plus importante que tous les autres. Et le texte nous dit qu'il se rongeait. Il ne pensait qu'à ça. Il s'en rendait malade et ça se voyait. Avec l'aide donc d'un cousin, il manigance un plan bâti sur le mensonge, sur la malhonnêteté. Aujourd'hui, on parlerait de préméditation. Un plan basé sur le mensonge. Tamar, elle a le défaut d'être belle. Elle a deux défauts, en fait, même dans cette société de l'époque. Et peut-être il y a des points communs avec nos sociétés actuelles. Elle est femme, ayant très peu de place dans le cadre dans lequel elle vit. Et elle est jolie. Et elle n'a pas grand-chose à dire quand le roi David lui demande de se rendre auprès de son demi-frère prétendument malade. Elle fait ce qu'on lui demande, elle obéit. Elle est soumise. Comment réagit-elle quand Amnon commence à la violenter, allant jusqu'à la violer? Elle essaye par tous les moyens d'éviter la tragédie. Tamar cherche des moyens de s'en sortir. Vous avez vu la liste des stratégies qu'elle essaye de développer. D'abord, elle va commencer par argumenter en sa propre faveur. Elle invoque d'abord des vraies raisons. Ne me fais pas violence, rien ne justifie jamais, ni à l'époque, ni aujourd'hui, merci, la violence. Rien ne justifie la violence, jamais, même aujourd'hui. Même dans nos propos, les uns envers les autres. Elle invoque ensuite des raisons légales. Ça ne se fait pas en Israël. Ce n'est pas des choses qui se font dans notre pays. Et puis, elle va chercher l'intérêt d'Amnon. Si tu fais ça, tu es mal barré. Ton héritage, ce que tu espères, tout ça va être terni. Elle cherche tous les ressorts possibles. Ta succession royale est mise en cause. Ça ne se fait pas. Et comme si elle n'avait plus de solution, elle va vraiment au bout, elle va essayer de négocier. Quelque chose qui est quand même étonnant. Demande à notre père et s'il lui le dit, ben je devrais m'y soumettre. Ce n'est même pas une bonne raison. Elle est désespérée d'en parler au roi. C'est quelque chose qui ne devait pas se faire. Les rapports internes à la famille étaient interdits depuis la loi du Lévitique au chapitre 18, répétée dans le Deutéronome. Et c'est incroyable de voir qu'à l'époque comme aujourd'hui, en fait, la personne qui est victime va essayer de trouver des stratégies qui ne sont pas vraies, elle contourne la vérité, elle cherche des arguments des fois qui vont aller à l'avantage de l'autre pour se tirer de ce piège. Et finalement, Amnon va arriver à ses fins. Ce n'était pas de l'amour. C'était de l'envie. Ce n'était pas de l'amour parce que cette pulsion sexuelle va arriver à une haine, un dégoût. Il va la rejeter. La répulsion va venir. Et la pauvre Tamar, en plus de la blessure morale, physique, va devoir assumer une histoire. Des blessures psychologiques qui vont rester profondément marquées dans sa personne. Elle va s'enfermer, dit-elle, comme étant abandonnée, est-il dit. Elle va subir le rejet social. Quelques remarques sur ces deux premiers personnages avant d'aborder un petit portrait d'Absalom et de David. Évidemment, on constate, comme s'il fallait le souligner, que les abus sexuels ne sont pas une invention du XXe et du XXIe siècle. Vous n'avez pas besoin d'aller dans les magazines TV pour le voir. On remarque surtout, si j'essaye de faire des connexions, des liens avec ce que nous vivons peut-être aujourd'hui, et peut-être parce que tout le monde ne se sent pas concerné par les abus sexuels, peut-être y en a-t-il. Peut-être y a-t-il des histoires dans l'assemblée de personnes qui ont été violentées. J'y reviendrai très rapidement tout à l'heure. Mais il y a peut-être d'autres envies. Si vous ne vous sentiez pas concerné par ces textes-là qui sont très précis, peut-être y a-t-il d'autres envies. Dans la culture du tout tout de suite, j'ai envie de. L'envie est un peu caractérisée comme une pulsion avec la peur, qui est une pulsion qu'on a du mal à contenir, qui nous fait faire des choses absolument étonnantes, qui sortent du rationnel et de l'habituel. Une pulsion qui nous pousse à faire des choses. Dans le tout, tout de suite. J'ai envie de la dernière technologie. Noël arrive. La liste du Père Noël, la boîte aux lettres du Père Noël commence à se remplir. J'ai envie de. Il me le faut, mais tout le monde l'a, je le veux. Je le veux. J'en ai, parfois on utilise même ce terme, on change l'envie en besoin. J'en ai besoin. T'en as vraiment besoin ? J'ai envie de cette dernière voiture, j'ai envie de partir en vacances à tel endroit parce qu'un tel y est allé. J'ai envie de cette dernière marque. J'en ai besoin. Non, envie. Mais est-ce que c'est vraiment juste ? Et puis ces envies nous rongent au point que ça se voit, au point qu'on est morose, au point qu'on est désagréable avec les autres, un peu comme Amnon. Et les autres, mais qu'est-ce que tu as ? Pourquoi tu tires cette tronche ? Qu'est-ce que tu as ? C'est fou, la puissance de l'envie qui nous amène à faire des choses qui ne sont pas justes. On est sur du matériel. Est-il possible que ces idées noires qui nous habitent, qui nous bouffent le temps, qui nous empêchent de dormir, vous y pensez la nuit ? Ça vous arrive, ça, de penser à la nuit, un truc comme ça ? J'en vois certains qui ont l'honnêteté de faire... Et des fois, l'envie, elle est envers quelqu'un d'autre ou contre quelqu'un d'autre. C'est terrible. Lui, j'ai bien envie de lui nuire, en fait. Il m'a fait tant de mal. Il m'a fait ceci ou cela. Mais t'as pas besoin. T'as envie. Et ces envies, voilà, elles nous rongent, elles nous rendent bizarres, elles nous rendent pas commodes aux relations. Elles nous rendent peut-être même violents à l'extrême, comme c'est le cas ici. Tant que notre envie nous occupe la tête, on a du mal à penser à autre chose et on en devient de plus en plus insupportable. Et si nous étions capables de les raisonner, on dirait « ça ne tient pas la route ». On manigance des mensonges, on invente des stratagèmes qui touchent des fois à la malhonnêteté, même envers nous-mêmes. Comment réagir quand on se débat avec ces tentations-là ? Il existe une communauté, peut-être des amis, à qui on aurait le recul, la sagesse suffisante pour lui dire « Écoute, mon ami, mon frère, ma sœur, je suis en train de batailler avec ça. J'ai besoin d'un accompagnement. J'ai besoin d'être aidé. » Je crois que c'est l'une des meilleures solutions que l'on peut partager comme ça, parce que ce n'est pas simple et il faut trouver la bonne personne. Je le reconnais. Et puis, il y a des sujets sur lesquels on ne lèvera jamais le voile. On n'ose pas en parler. On n'ose pas en parler. On met un voile. Peut-être serait-il possible de se mettre soi-même à la place de notre ami et de s'écouter dire « Tu sais bien que ça ne tient pas la route. » Nous serions capables de donner ces conseils-là à d'autres. Est-ce qu'on serait capable d'écouter nos propres conseils si on se les donnait à nous-mêmes ? Le problème ici, c'est qu'Amnon ne rentre pas dans cette démarche-là. Et il ne sera pas dans une démarche de pardon, de regret, parce que Dieu, quelque part, est capable de pardonner. Il pourrait pardonner même ça. Il tombe dans la haine et dans le dégoût. Il n'est pas dans le regret et le pardon. Que me disent ma foi ? Que me disent mes valeurs, ce que je défends, ce que j'ai chanté tout à l'heure, quand nous nous débattons avec ce genre de pensée ? Seigneur, garde-moi de la tentation. Aide-moi à revenir à la raison. Je me sens glissé. Je me sens dérapé. Je me sens faire des choses qui ne sont pas raisonnables. Et mon entourage le voit. Place, s'il te plaît, Seigneur, des personnes sur mon chemin. Place des circonstances qui m'empêchent de glisser. Quelle que soit l'envie qui est là par le tentateur, il a été lu tout à l'heure, ce n'est pas contre la chair et le sang, c'est contre les puissances spirituelles que nous avons à lutter. Mes amis, faites cette prière quand ça vous taquine, quand ça vous titille. Et puis il y a Absalom. Assez bizarrement, quand Absalom voit sa sœur s'enfuir, sans même lui poser de questions, il sait déjà que Amnon est pas loin de cette affaire. Ton frère t'aurait-il fait violence ? Tamar n'a rien dit, n'a rien fait, elle n'a fait que crier et s'enfuir avec de la cendre sur la tête. Absalom sait déjà tout ce qui s'est passé. On peut imaginer, ce n'est pas écrit. Je le reconnais. Mais on peut imaginer que la situation n'était pas complètement inconnue. Absalom, on n'a pas eu besoin d'un long discours pour comprendre ce qui s'était passé. Il y a des choses que l'on voit, que l'on sait, et sur lesquelles peut-être on ne prévient pas, on ne dit rien. Tamar aurait-elle déjà dû fuir et éviter tout contact, s'opposer à la volonté de son père ? Le pouvait-elle ? En tout cas, Absalom relativise tout de suite. Vous avez réagi à ce moment-là. Ce n'est pas grave, n'en fais pas toute une histoire. On pourrait expliquer, essayer d'expliquer ça par le contexte de l'époque, qui laisse peu de place aux femmes, comme je le disais tout à l'heure, mais ça reste incroyable. Il faut quand même essayer de ne pas lire tout ce texte avec les yeux du 21e siècle. Tentons, tant que faire se peut, de le remettre dans le contexte de l'époque, mais enfin quand même, quoi. On pourrait avoir l'impression qu'il tente de calmer le jeu. Y aurait-il une solution qui va se dessiner dans un futur proche ? En fait, non. On s'aperçoit rapidement que dans la suite du récit, donc, Amnon, une haine profonde est née contre Amnon. Il ne lui parlera plus du tout, ni en bien ni en mal. C'est le silence radio total. Entre demi-frères dans la même maison, il n'y a plus de contact dans la fratrie. Silence total. Vous imaginez l'ambiance ? Tu te croises dans les couloirs ? Silence. Rien. Pendant deux ans, il va ruminer sa haine. Il va la laisser grandir. Il va échafauder. Là, c'est pareil, j'imagine que ses nuits ne sont pas sereines, ne sont pas paisibles. Et il échafaude lui aussi un plan. Il va inviter son frère avec tous les autres. Allez, on va tondre les moutons. Et bam ! Il lui tombe dessus. Lui, vous lui faites son affaire. Ce texte d'Éphésiens 6 qui nous dit que la le soleil ne doit pas se coucher sur notre colère. Mais là, il y a combien de soleils qui se sont couchés sur sa colère avant qu'il ne puisse extérioriser sa colère. Oui, il y avait de l'injustice. C'était absolument injuste. Et il règle lui-même sa propre vengeance. Au lieu de déposer sa vengeance à Dieu, Amnon ne s'est pas tourné vers Dieu pour demander le pardon et exprimer son repentir et son regret, mais Absalom non plus ne s'est pas tourné vers Dieu pour déverser son sentiment d'injustice et son aigreur profonde. Seigneur, fais justice. Seigneur, agis. Ça a été dit tout à l'heure, on a mais tellement besoin de toi. Nous ne sommes que de pauvres pécheurs. Et il se vengera. Humainement parlant. Alors que peut-être c'est David qui, avec son rang d'autorité du Père, aurait dû faire quelque chose. Il aurait dû lui faire justice, il aurait dû intervenir. Et il se vengera parce qu'aucune justice n'avait été faite. David n'a pas bougé le petit doigt contre Amnon. Résultat des courses, Amnon accomplira lui-même sa propre justice. Absalom, pardon. Merci. Absalom accomplira lui-même sa propre justice. Absalom, plus tard, devra fuir après avoir fait tuer son frère. Il devra fuir. Il nourrira aussi des sentiments opposés à son père et il voudra prendre le trône. Dans toute cette histoire, en fait, on voit combien les conséquences vont loin. Absalom va manipuler son père. Merci. OK. Et maintenant, David. David, lui, il n'a rien fait à l'encontre de son fils, Amnon. Pourquoi ? Pourquoi n'a-t-il rien dit à Amnon ? Très certainement parce qu'il l'aimait beaucoup. C'est ce qui est dit dans les versets 21 et 38. Il ne dit rien probablement parce qu'il était difficile de lui reprocher quelque chose. David avait très certainement du mal à reprocher quelque chose à son fils. Pourquoi ? Parce que lui, il avait aussi fait. Parce que lui aussi avait violé et fait tuer. Mais papa, qu'est-ce que tu me dis là ? T'as fait quoi, toi ? Ça lui était difficile de sanctionner dans ces conditions-là. Et puis, est-ce que David avait une difficulté d'autorité paternelle, peut-être ? 1 Roi, chapitre 1, verset 6, nous dit que David n'avait jamais rien dit à Adonia, un autre de ses fils, parce qu'il l'aimait. On a là un peu un caractère de David. Il dit rien, David. Tout comme il n'a jamais rien dit à Absalom, quand Absalom a commencé à échafauder des intrigues, de Samuel 14, 33. C'était peut-être un papa gentil qui aimait tellement ses enfants qu'il ne leur disait jamais rien en termes d'autorité. Et on se trouve là, oui, avec un David qui avait lui-même succombé à la tentation, à la différence près que David s'était repenti. Et Dieu l'a utilisé d'une manière absolument particulière dans son plan du salut. Différence entre Amnon et David. David, lui, s'est repenti, il a pris conscience de la blessure. Tout à l'heure, on a chanté la peine de Dieu. Vous avez chanté, mes amis, « Rends-moi sensible à ta peine ». Nous l'avons chanté. « Apprends-moi à aimer comme tu aimes ». Nous l'avons chanté. Avoir les sentiments de Dieu. Quelle famille, mes amis, mais quelle famille ! Et Dieu compose avec tout ça. Il les aime, je crois. Il nous aime. Et il est toujours prêt à dire, revenez à moi, tournez-vous vers moi, approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. Alors comment conclure ? Amnon. J'avais oublié David là. Hop, on a vu David. Amnon. Si j'ai des envies peu recommandables, si tu as des envies peu recommandables, dont tu ne parles pas. Peut-être faut-il être sage et prudent, extrêmement sage, prendre du recul sur nos décisions, nos actes. Parce que tout cela, ces enlevés-là, parfois peuvent avoir des conséquences graves. Attention au tout de suite, à la mode du moment, aux pulsions, à ses envies. Peut-être faut-il trouver un ami, une communauté de frères, de sœurs capables d'entendre. Pas des Yonadab, pas des cousins qui manigancent. Tamar, si tu as été violentée d'une manière ou d'une autre, de façon morale, peut-être physique, une violence psychologique, un abus, est-ce que tu sais où trouver un lieu d'écoute? Est-ce que tu sais trouver une personne sage qui saura recevoir cette souffrance? Je t'encourage à le faire. Si tu te sens coupable au point de ne même plus pouvoir en parler, tu peux le dire à Dieu, premièrement, évidemment, il est toujours un refuge sûr. Et je voudrais pouvoir vous encourager à le dire à l'Église qui est le reflet de Dieu, qui est la famille de Dieu, qui est le relais de sa volonté. Laisse-toi accompagner, ose le dire. Ne reste pas enfermé dans ta douleur et dans ta chambre comme si tu étais abandonné. La culpabilité n'a aucune raison d'être dans ces cas-là. Elle ne doit pas s'immiscer dans ton raisonnement en tant que victime. Laisse-toi accompagner. Absalom. Y a-t-il dans mon entourage des personnes qui ont été abusées, violentées d'une manière ou d'une autre, pas seulement physiquement, mais moralement, psychologiquement? Est-ce que j'ai mis un voile? Est-ce que nous avons mis un voile? Est-ce que nous voyons les choses? Est-ce que nous les dénonçons? Est-ce que nous sommes attentifs ou est-ce que nous minimisons? Ne prends pas la chose trop à cœur. Est-ce que nous fermons les yeux? Ou est-ce que nous dénonçons l'injustice? Ou est-ce que nous réglerions l'injustice nous-mêmes? Comment est-ce que je réagis dans l'intérêt de la victime? Comment est-ce que je gère ma propre colère? Mon propre désir de vengeance, cette frustration-là qui me pousse à agir contre mes valeurs. Est-ce que je saurais accompagner la souffrance? Je ne pose que des questions, mais elles font écho en nous. Est-ce que je suis légitime si j'étais David, si j'étais un patriarche, un père, dans une famille ou dans une communauté? Est-ce que je sais faire ce qu'il faut faire au bon moment? Est-ce que je sais dire ce qui est juste? Est-ce que j'ai appris de mes blessures, de mes défauts de parcours, du pardon que j'ai reçu pour agir dans l'intérêt de l'autre, prendre soin de la souffrance de celui qui est proche de moi? Et est-ce que j'ai conscience aussi que tous mes choix, quels qu'ils soient, ont des conséquences plus tard? Mes amis, c'est important. Je suis désolé, hein, mais c'est important. Tous vos choix ont des conséquences. Acceptons la grâce de Dieu pour faire les bons choix. Laissons-nous aider pour faire les bons choix. Veillons sur nous-mêmes, veillons les uns sur les autres pour ne pas dévier, céder à la tentation. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Seigneur, viens à notre secours, que ta volonté soit faite. Pardonne-nous nos offenses. Ne nous laisse pas succomber.